Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Un incendie a jeté dans la rue plus de 400 personnes déplacées. Le feu qui serait parti d'une case où les enfants s'amusaient le mardi soir a embrasé le site des déplacés de Godo dans Djougou en Ituri. La société civile locale plaide pour une assistance aux sinistrés. Le Premier ministre instruit tous les ministres et membres du comité de conjoncture économique à traduire les performances économiques réalisées par le gouvernement dans le vécu quotidien des populations. Instruction donnée hier lors de la réunion hebdomadaire de la primature. Et puis, nouvelle naissance d'un bébé gorille dans le parc national de Kahuzi-Biega au sud Kivu, ce qui porte à 174 la population des gorilles dans ce parc. Pour en parler, nous recevons Dedieu Biaombe, directeur du parc national de Kahuzi-Biega. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Plus de 400 personnes déplacées se retrouvent sans abri après un incendie survenu mardi soir dans leur site de Godo dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, le feu serait parti d'une case où les enfants s'amusaient avec le feu. La société civile de la place plaide pour une assistance humanitaire urgente en faveur des sinistrés. Le récit de Ezekiel Mousalia.
Ce sont au total 128 cases qui abritaient des déplacés du site des Godo 3 qui sont partis en fumée hier en début d'après-midi. Ce site compte à ce jour plus de 1600 personnes qui avaient fui les atrocités dans leur village dans le groupement Risasi, Boudou, Niapala. Plusieurs sources sur place restent évasives sur l'origine exacte du feu, mais la société civile locale indique que cet incendie est parti d'une maison dans laquelle les enfants jouaient avec les feux dans un brasero. Toujours selon la même source, plusieurs biens ont été réduits en cendres, mais le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des habitants venus au secours. Dino Gédéon, président de cette structure citoyenne, rapporte que plusieurs familles ont passé nuit dans des familles d'accueil et d'autres avec leurs enfants dans des églises où ils sont exposés aux intempéries. Dino Gédéon.
Parmi ces 444 personnes, il y a 39 femmes à 7, il y a 64 enfants qui vivent vraiment difficilement. Quel hôtel passe le tout pour dépêcher les ONG pour assister ces personnes qui sont déprimées de tout.
Signalons que c'est le deuxième incendie des abris des déplacés signalés dans cette zone en l'espace des deux semaines. Nous n'avons pas encore la réaction des autorités sur cette catastrophe. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Dans ce journal aussi, ces cas d'inondation après la forte pluie de ce matin à Kinshasa, plusieurs routes, également des quartiers situés le long des cours d'eau, ont connu des inondations. C'est notamment dans la commune de Limété. Son bourgmestre Douglas Nkulu Numbi explique au téléphone de Babel Mpongo Masimango.
Après des grandes pluies, nous enregistrons des inondations comme c'est le cas aujourd'hui sur l'ensemble pratiquement du quartier Ndanou avec ces deux grandes artères qui sont Mwepu et Colonel. Sans compter toutes les ramifications, l'eau est pleine. Nous sommes encore en train de circuler pour identifier s'il y a des dégâts matériels, mais de prime abord, aucun rapport ne m'est parvenu dans ce sens-là, à part les eaux qui sont montées. Cette situation est constatée aussi au quartier Mososo. Tout le long du lit de la rivière Yolo, les avenues sont impraticables. Le quartier Mososo est inondé. Tous les petits ponts-là de fortune sont débordés d'eau. Et cette situation est aussi observable au quartier Kingabwa, dans les localités Ebaléa Congo, Mamanzeze et Raoundé. Là aussi, nous avons connu des inondations. L'eau va certainement baisser d'ici la fin de la journée, sauf s'il pleuvait encore, mais sinon, c'est vraiment résiduel.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre Samalou Kondé instruit tous les ministres et membres du comité de conjoncture économique à traduire les performances économiques réalisées par le gouvernement dans le vécu quotidien des populations, notamment l'augmentation de la production locale et l'accès aux services socio-économiques de base. C'était lors de la réunion hebdomadaire tenue hier à la primature. Au cours de celle-ci, il est noté une nette amélioration de la situation économique du pays qui est passée du rouge en 2020 au jaune à la fin de l'année 2021, signale le ministre d'État au plan qui a fait le compte-rendu de cette réunion, le ministre Christian Mwando dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
Nous avons l'augmentation des recettes de la République qui ont augmenté par à peu près de 68%, passant à peu près de 11 800 milliards cette année-ci, alors qu'ils étaient à 7 000 milliards l'année passée. Donc tous ces paramètres-là démontrent que l'évolution économique est bien maîtrisée. Et vous verrez également qu'en termes de taux de change, nous avons bougé simplement de 1,4% de fin 2020 à fin 2021. Nous sommes aujourd'hui autour de 1999,11 francs congolais pour un dollar américain, ce qui est une bonne tenue de l'économie. Maintenant, la préoccupation et les instructions reçues du président de la République et du Premier ministre, c'est qu'on traduise justement ces bonnes performances économiques dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit notamment d'examiner avec les ministres sectoriels la possibilité d'augmenter la production locale, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Il s'agit également d'avoir des investissements qui permettent de pousser la croissance économique et pour qu'au niveau le plus bas, on se retrouve.
Dans l'actualité, sachez aussi que le bureau provincial de l'UNICEF Grand Équateur, basé à Mbandaka, fonctionne désormais dans des nouvelles installations. Il s'agit du complexe de l'ancien hôtel du gouvernement. L'autorité provinciale l'a attribué à cette agence onusienne au regard des appuis humanitaires que l'UNICEF apporte à l'Équateur. C'est le représentant pays de l'UNICEF qui a réceptionné ses locaux hier. Il a également annoncé l'appui de son institution lors de la prochaine campagne de vaccination anti-Covid et l'implémentation en 2022 d'un grand projet d'eau potable à travers la province de l'Équateur. Des précisions avec Paul Richard Malengela.
À l'Équateur, l'UNICEF excelle par ses nombreuses interventions humanitaires et à impact visible, ce qu'estime le gouverneur de province Dieudonné Boloko. C'est pourquoi son gouvernement a attribué ce bâtiment de l'État en récompense à ses multiples réalisations au profit des populations dans le besoin.
Nul n'ignore l'apport technique et l'appui conseil de l'UNICEF Équateur. Ses actions et interventions sont visibles et palpables à travers l'ensemble de nos entités. Voilà pourquoi lorsque j'avais reçu leur demande pour l'obtention d'un bâtiment devant abriter ses services et j'avais jugé pertinent.
Par ailleurs, le gouverneur Bobo Boloko a recommandé une bonne utilisation du site, totalement réhabilité par l'UNICEF. Il a aussi exhorté d'autres agences et organismes à lui emboîter les pas. Pour le représentant de l'UNICEF en RDC, l'acquisition gratuite de ce bureau par son agence permettra de pérenniser et de booster ses interventions dans la province. Edouard Bigbeder.
Depuis 2006, on était locataire. Ça nous permet effectivement d'être là et d'avoir une vision sur le long terme avec le gouvernement. On est très heureux de cette inauguration qui donne un bon cadre de travail pour non seulement travailler sur l'Équateur, mais aussi les 5 provinces au Grand Équateur avant.
Parmi les actions de l'UNICEF à l'Équateur en 2022, Edouard Bigbeder a annoncé le projet d'adduction d'eau potable et d'électrification des hôpitaux, mais aussi l'arrivée en Mbandaka des vaccins contre la COVID-19, dont les opérations de vaccination bénéficieront également de l'appui de son agence. Mbandaka, pour Chamalingué, la radio Okapi.
Province de la Tchopo, le personnel de santé non médecin et autres prestataires du secteur de la santé ne suspendront ni n'élèveront la grève entamée depuis le 2 août 2021 avant la signature du protocole d'accord entre le banc syndical et le banc gouvernemental. C'est ce qui ressort de l'assemblée générale de cette corporation, assemblée tenue hier à l'hôpital général de référence de Makiso Kisangani. Néanmoins, ce personnel salue les avancées obtenues lors des négociations entre les deux parties. Le représentant du banc syndical de la Tchopo, Jean-Marie Moussa Sambaï, explique ici les avancées et ce qui reste à obtenir avant la reprise de service. Il a été joint par Jacques Moukonkolé.
On est dans ce service. Pour la première fois, nos membres ont participé à la conférence budgétaire et on avait accepté notre barème qu'on avait proposé. On a dit 30 000, 60 000 aux agents attractifs et aux pro-santé selon les catégories. Et on avait aussi catégorisé en donnant des effectifs spécifiques à certaines catégories. Et ce qui reste, c'est la signature du protocole d'accord. Parce que dans le protocole d'accord, il y a beaucoup de choses qu'on avait demandées, la médicalisation, l'alignement des gens. Et c'est ça, les volontés de ce qu'on a parlé avec l'Assemblée hier.
Vous en êtes satisfait et la grève peut être levée?
On n'est pas satisfait parce qu'on a trouvé que c'était toujours insuffisant. Et c'est pour cette raison que je vous dis que la grève continue jusqu'à l'obtention de la signature du protocole d'accord entre les banques syndicales et les banques gouvernementales. Comme le mot d'ordre est venu de Kinshasa, et c'est même Kinshasa qui va donner toujours le mot d'ordre pour suspendre ou laisser la grève. Ce n'est pas à nous, la province, de donner une réponse par rapport à ça.
En plus bref, à Boutembo, 5 personnes sont mortes et d'autres blessées dans une attaque perpétrée la nuit dernière par des Maï-Maï contre une position des FARDC à la barrière de Kiambo. Le commandant FARDC dans la ville appelle la population au calme. Sud Kivu, la présence présumée du réseau des ADF sème la panique depuis l'arrestation il y a 2 jours d'un des leaders de ce mouvement à la frontière de Kavimvira. Il s'agit de Benjamin Kisokiranyo, l'un des leaders ADF, arrêté mardi à Uvira alors qu'il tentait de rejoindre Bujumbura au Burundi avec 8 autres civils. Information livrée par l'armée qui précise que ce chef rebelle a été capturé en possession d'un passeport congolais sur lequel il se nomme Jimmy Kilalo Kasereka. Pendant ce temps à Uvira, les organisations membres du réseau local de protection des civils, la société civile, y compris les représentants des jeunes et des femmes, expriment leur inquiétude sur cette situation. Ils demandent aux services de sécurité de multiplier la vigilance au niveau des frontières. Fiston Goma.
Le secrétaire exécutif du réseau local de protection des civils appelle à la pleine implication des services de sécurité pour démanteler ces réseaux des ADF dans le sud Kivu. Yves Ramazani ou Amramazani.
Quand les ADF vont commencer maintenant à être appréhendés au niveau de la frontière de Kavimvira, donc nous présumons qu'ils seraient déjà dans la région. Et pour nous, c'est une grande crainte puisque la population vit sur la psychose. La semaine passée, on parlait des éléments burundais qui ont traversé la frontière burundaise. Aujourd'hui, on nous dit que les ADF sont appréhendés à Uvira. Et la situation qui prévaut dans les hauts plateaux, vraiment la population se plaint beaucoup et disent que l'État congolais fournisse beaucoup d'efforts pour appréhender tous ces malfaiteurs-là.
Du côté de l'armée, le porte-parole du secteur opérationnel des FARDC précise que 8 civils ont été arrêtés mardi par les services d'immigration des GEM à la frontière de Kavimvira. Cependant, leur identité est encore à préciser.
Des renseignements qu'ils ont été interpellés. Alors, il y a des amis qui ont déjà confirmé qu'ils seraient ADF. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas dire cela. Ils sont entre les mains des services de sécurité. Nous sommes en train de les auditionner pour savoir ce qu'ils voulaient, chercher quoi, ils voulaient aller où.
Cette arrestation et la prolifération de messages liés à la présence présumée du réseau ADF à Uvira ont créé une panique au sein de la population locale. D'Uvira, Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
À Kananga, signalons la reprise des audiences au procès sur le meurtre des 2 experts de l'ONU au Kasaï. Audience devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Les séances tournent autour des plaidoiries des avocats des prévenus. 2 collectifs encore en lice doivent clôturer avec leur moyens de défense avant les répliques du ministère public et les contre-répliques des avocats. Direction Lubumbashi, le domicile de Timothée Mbuya, président national de justice à Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme, a été visité par des hommes armés. Cela s'est passé dans la nuit de mardi à hier mercredi. D'après Timothée Mbuya, ces hommes ont indiqué qu'ils ont été envoyés pour les tuer. Ne l'ayant pas trouvé, ils ont traumatisé sa famille et emporté quelques biens. Pour l'instant, cette famille dit être en insécurité. Timothée Mbuya, de justice à Asbel, relate les faits au téléphone de Jean Gandou.
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2022, des éléments, certains habillés en tenue de la police et d'autres en tenue civile, munis d'armes, se sont introduits dans ma maison. Heureusement que je n'étais pas là, ils ont commencé à me chercher, ils ont braqué des armes sur mon épouse et sur mes enfants, les menaçant de les tuer s'ils ne disaient pas là où j'étais. Ils sont repartis, ils ont pris notamment des bijoux de mon épouse, quelques pagnes et d'autres petites histoires parce qu'ils ont dit qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un pour me tuer, ils sont pas venus chercher des biens. Fort, ils ont appelé du secours et personne n'est venu. Nous avons saisi l'auditorat militaire parce qu'ils ont laissé quelques effets militaires et c'est l'auditeur militaire qui a reconnu formellement que les balles qu'ils avaient laissées là, ce sont des balles qui sont compatibles aux armes AK-47. Donc un constat a été fait. Pour l'instant, ma famille et moi-même, nous vivons vraiment en difficulté parce que la notre situation sécuritaire laisse vraiment à déplorer. Voilà donc la situation dans laquelle je suis présentement avec ma famille.
Notons que cette situation intervient 24 heures après sa comparution dans l'affaire qu'il oppose à la ferme Espoir qu'il accuse d'imputation dommageable au sujet de la spoliation d'une partie du parc Kundelungu dans le Haut-Katanga. Retour au sud Kivu, le directeur du parc national de Kahuzi-Biega s'est réjoui d'une nouvelle naissance d'un bébé gorille né de la femelle Mugoli et du mâle Nabirembo. Une cérémonie sera organisée dans les prochains jours pour donner le nom à ce nouveau-né. Selon le directeur du du parc. Le nombre des gorilles de ce parc national passe à 174 espèces. Pour des dieux Biaoumbe, les naissances des bébés gorilles restent un signe d'espoir pour cette réserve naturelle qui accueille les touristes en provenance du monde entier pour visiter cette espèce rare au monde. Malheureusement, ajoute le directeur du parc national des Kahuzi-Biega, les ressources de cette réserve mondiale sont convoitées par les groupes armés qui y pratiquent le braconnage et exploitent le bois et les matières précieuses.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Un bâtiment en rénovation s'est effondré mercredi dans l'état de Delta. L'accident tragique a fait 4 morts et plusieurs blessés. Cet incident intervient 2 mois après l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos. Ce dernier accident avait fait au moins 45 morts et provoqué une indignation nationale. Les mouvements des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine font partie de la pression exercée par Moscou pour obtenir satisfaction sur ses demandes, mais il n'est pas question de négocier sous la pression, a affirmé ce jeudi le chef de la diplomatie européenne. Nous avons reçu l'assurance que rien ne sera décidé ni négocié sans les Européens et la coordination avec les Américains est absolument parfaite, a ajouté l'Espagnol Josep Borrell avant le début d'une réunion informelle avec les ministres de la Défense de l'Union européenne, dont une grande partie des travaux sera consacrée à la menace d'un nouveau conflit en Ukraine. Des dieux Biaoumbe d'une nouvelle. Cette naissance porte à 174 le nombre des gorilles que compte le parc national de Kahuzi-Biega. Des dieux Biaoumbe s'entretient à ce sujet avec Rachel Kessembangou.
Monsieur des dieux Biaoumbe, bonjour.
Bonjour.
Le parc national de Kahuzi-Biega a enregistré une nouvelle naissance. Dans la famille de Nabirembo, pouvez-vous confirmer cela et nous en parler?
C'est avec joie que depuis le 7 janvier, nous avons observé qu'il y avait une nouvelle naissance dans la famille. C'est la deuxième naissance dans cette famille depuis qu'on a décidé de commencer son habituation.
Comment les gorilles se reproduisent-ils?
La reproduction des gorilles est semblable à la reproduction humaine. Comme on a toujours dit, ce sont nos proches cousins. Ils se reproduisent vraiment comme les humains. C'est une famille, la famille Nabirembo, qui est le mâle dominant, mais qui a plusieurs femelles. Dans la famille Abirembo, nous avons presque 4 femelles. Et les 4 femelles sont entourées aussi des enfants. C'est une grande famille. Et ce sont les femelles qui sont dans cette famille et qui sont en train d'augmenter le nombre de gorilles.
Combien de gorilles compte aujourd'hui le parc national Kahuzi-Biega?
Il faut parler des gorilles de la haute altitude. Donc c'est la partie haute altitude ou la partie secteur Chivanga. Nous avions en 2020... presque 168 gorilles, mais avec les nouvelles naissances qui viennent de s'enregistrer, aujourd'hui, avec cette nouvelle naissance du 7 janvier, nous avons au moins 174 gorilles.
Que représente la naissance d'un gorille pour le parc national Kahuzi-Biega, qui est un lieu touristique de renommée dans notre pays?
La naissance d'un gorille représente beaucoup de choses. Cela témoigne qu'il y a un bon suivi de ces grands singes qui n'existent que dans le parc national de Kahuzi-Biega, de Graweri. Et selon les écritures anciennes qui ont montré qu'il y avait vraiment une menace, il fallait travailler pour sécuriser les gorilles des plaines de l'Est. Nous pouvons la confirmer que quand il y a augmentation, ça montre qu'il y a le calme qui est venu, il y a la menace qui est en train de diminuer et il y a un bon service des patrouilles qui se suit pour sécuriser ces gorilles.
Revenons un peu sur l'importance des gorilles. Quelle est l'importance de ces espèces rares dans notre pays?
Sur le plan touristique, nous avons cette curiosité d'attirer les touristes puisque c'est une espèce endémique. Tout le monde, quand il visite les gorilles, il rentre toujours ébahi puisque c'est un plaisir d'avoir visité un jour les gorilles. Vu sa masse, vu sa composition, mais aussi l'encadrement de sa famille et leur mode de vie vraiment sauvage, ça attire les touristes et ça c'est vraiment important pour nous. Mais aussi important puisque c'est une espèce. D'abord, là, c'est comme si vous me demandez quelle est l'importance de l'homme sur la terre. L'importance des gorilles aussi sur la forêt, c'est les gorilles qui fait que la forêt soit là et la forêt fait que le gorille existe. Donc, il y a cette interaction et les deux font que les hommes puissent exister. Donc, c'est tripartite entre gorilles, hommes et forêt. C'est ce qui fait que l'homme et la nature et l'univers puissent exister. Si dans cette interaction, on enlève un élément, on est au point de faire mourir les autres deux, et quand les deux vont disparaître, c'est l'homme c'est la vie, c'est l'humanité tout entière qui va disparaître. Donc les gorilles sont aussi importants puisqu'ils participent à la vie humaine, à notre survie, mais aussi à côté de tout cela. Il est vrai que les gorilles est toujours important pour cette famille aussi qui doit exister. Si on termine cette espèce, par exemple pour nous, pour les gravéries, le monde entier n'en parlera plus. On parlera, ça sera comme on a toujours parlé aujourd'hui des dinosaures et autres. Donc il est important que cet être qui est vivant aussi puisse exister et puisse pérenniser son espèce jusqu'à la fin du monde.
Comment l'ICCN protège-t-il cette espèce rare du Pentkabé?
Il est vrai, ça c'est une question très cruciale, puisque c'est vraiment au prix de la vie des éco-gardes que cette espèce est protégée. Et moi j'ai toujours parlé que ce sont les héros vivants.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Félicitons cette franche collaboration.
Voilà notre invité, le directeur du parc national des Kahuzi-Biega de Dieu Biaombe, répondait aux questions de Rachel Kiesembangu. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Alain Ngoy était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.